Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, le développement durable, on en parle beaucoup et ce n'est pas d'hier. Le sujet est largement médiatisé, du moins, car dans cette émission, nous allons introduire une nuance, du moins lorsqu'il s'agit de la nature et de l'environnement. Mais à vrai dire, le développement durable comporte trois dimensions, dont la troisième est largement oubliée et passée sous silence, et ce sera le sujet de cette émission. Le point sur ces trois dimensions du développement durable, nous allons le faire avec mon invité, Guylaine Alajouanine, correspondante de l'Académie des sciences morales et politiques, mais aussi pionnière de la télésanté ou de la télémédecine. On se rappelle, Guylaine Alajouanine, votre ouvrage paru au PUF sur l'apport des nouvelles technologies à la santé, particulièrement en Afrique. Vous êtes l'initiatrice du HS2, Haute Sécurité Santé, qui répond à la troisième dimension du développement durable et dans lequel s'inscrit la télésanté et la télémédecine. Et vous présidez d'ailleurs le Haut Conseil français de la télésanté, dit Commission Galien. Et vous êtes correspondant. Mais ça, je l'ai déjà dit, ce que j'ai oublié, c'est de vous dire bonjour Guylaine Alajouanine.
Bonjour chère Hélène. Et confrères, consoeurs, comme on ne sait plus d'ailleurs, ils ne savent plus non plus d'ailleurs.
Personne ne sait, alors ça n'est pas grave. On voudrait d'abord savoir quelles sont ces trois dimensions du développement durable, puisque j'ai dit qu'il y en avait une qui était oubliée. Alors, quelles sont-elles ?
Je crois qu'il faut simplement faire un petit rappel sur le développement durable. En 1968, on a des universitaires, des chercheurs, des économistes, des industriels de 53 pays qui se réunissaient en groupe de réflexion et se retrouvaient pour une conférence à Rome et ont fondé alors le Club de Rome.
En avril 68 ?
Oh, bravo! Oui, c'était en avril.
Juste avant mai, c'est pour ça que je m'en souviens un peu.
Ah, exactement. Eh bien oui, c'est ça. C'était piloté à sa création par Aurelio Peccei, un Italien qui était membre du conseil d'administration de Fiat. Et on avait aussi Alexander Keane, qui était un scientifique, c'est un fonctionnaire écossais. On le connaît surtout en tant qu'ancien directeur scientifique de l'OCDE, hein, qui était l'Organisation de coopération et de développement économique. Et justement, ce club doit son nom au lieu de sa première réunion à Rome, à l'Accademia d'où ?
Dell'Inci, je suppose,
ouais,
la plus vieille académie d'Europe. La plus vieille académie d'Europe,
oui,
faut bien
oui.
le dire. Alors, quel était l'objectif, en quelques mots, de ce club de Rome ?
Oh, l'objectif était de réfléchir à des problèmes qui concernent l'ensemble de la planète. J'oserais dire la gouvernance. On n'appelait pas encore cela comme ça, mais disons la bonne gouvernance.
Il était alarmiste, ce club de Rome, non ?
Mais oui, en 72 d'ailleurs, ils ont lancé un rapport alarmant qui était le halte à la croissance. On l'a appelé aussi, il est des fois plus connu sous ce nom-là, de rapport Meadows, qui était sur, si on peut dire, les limites de la croissance et qui a alimenté à ce moment-là d'importants débats en développant l'idée que la croissance de la population et des niveaux de vie buterait à terme sur la rareté des ressources naturelles de base, énergie, eau, sol. Donc Copenhague, une fois de plus, en mi-décembre. Et là, les conclusions alarmistes du rapport firent place à l'idée qu'il ne convenait pas de récuser la croissance en tant que telle. Il importait de la pérenniser et non de la brider. C'est très important ce détail, si l'on peut dire. Mais aussi d'identifier les conditions d'une croissance qui allait assurer la préservation de l'environnement. Et c'est cette même année, rappelez-vous encore, la conférence de Stockholm qui inaugurait la réflexion des États sur les liens entre la protection de l'environnement et le développement humain. Vous voyez, on va y venir à notre social et développement humain, éducation, santé. Donc le concept de développement durable a été popularisé en 87, naturellement par le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. C'était cette fameuse commission dite Brundtland, du nom de Madame Gro Harlem Brundtland, qui est une femme de grand caractère et de grande intelligence qui l'a présidée. Et il a été repris naturellement par l'Assemblée générale des Nations unies en 92. Donc, le développement durable recouvre toutes les politiques. C'est dans ce rapport qu'on avait ce « notre avenir à tous », qui est proposé, d'ailleurs la définition, on va la rappeler, tout le monde la connaît maintenant, mais quand même, qui est proposé la définition la plus communément admise du développement durable, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 5 ans après, les nations se retrouvent autour de ce concept lors du sommet de Rio en juin 92 et maintenant à Copenhague en décembre 99.
Donc, 2009,
merci Hélène. Donc la stratégie de développement durable de l'Union européenne reprend la définition de la commission Brundtland et en retient 2 idées. Après, je vous parlerai des 3 piliers, mais là, d'abord les 2 idées, c'est « il n'y aura de développement durable que si un équilibre est obtenu entre les différents facteurs qui contribuent en général à la qualité de la vie ». Vous voyez, c'est bien important.
C'est large.
C'est large, hein ? Deux, les générations actuelles ont l'obligation de laisser aux générations futures des stocks de ressources sociales. Soulignons-le, c'est celui-là qu'on oublie et c'est celui-là, aujourd'hui, ma chère Hélène, qu'on doit vraiment, je dirais, mobiliser pour qu'on s'en rappelle. Environnemental et économique, suffisant pour qu'elle bénéficie de niveaux de bien-être au moins aussi élevés que les nôtres.
Alors là, vous avez déjà cité, en effet, Ghislaine Alajouanine, les 3 piliers, mais on va y revenir après une courte pause. Vous avez cité l'économique, vous avez cité l'environnement et vous avez cité le social. Et malheureusement, l'environnement a pris toute la place, j'allais dire. Maintenant, on ne parle plus de développement durable que dans le domaine ou dans la dimension environnementale. On le voit bien d'ailleurs encore avec le sommet de Copenhague. Mais vous allez nous expliquer que cette 3e dimension, elle est également très importante parce qu'au fond, elle concerne l'homme. On se retrouve dans un court instant.
Champion de la consommation en matière de médicaments en Europe, les Français ingurgitent en moyenne pas moins de 1500 comprimés par habitant et par an. Si les médicaments sont utiles à notre santé, l'Académie nationale de pharmacie se montre préoccupée par les conséquences environnementales de leur utilisation. Antibiotiques et pesticides dans les eaux, quels sont les risques à court et à moyen terme ? Le point en compagnie de Yves Lévy et Jean-Marie Hagenauer, membre et correspondant de l'Académie nationale de pharmacie. Une émission en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
On revient avec Ghislaine Alajouanine dans notre studio de Canal Academy où nous parlons de cette 3e dimension du développement durable, une dimension oubliée, celle du social. Alors ce n'est pas seulement le social, vous allez nous développer un petit peu ce que ça recouvre, cette 3e dimension.
Comme je le disais tout à l'heure, les 3 piliers qui font de la mise en œuvre du développement durable, le sommet de Copenhague 95 a consacré au développement social, a validé à l'échelle européenne ce 3e pilier. On a eu aussi le sommet des villes d'Istanbul qui a cherché, en s'appuyant sur ces piliers, à définir le développement durable en y intégrant d'ailleurs la dimension urbaine et en situant le bien-être de l'homme au centre de ses préoccupations. Donc, 3 piliers. L'économique, qui va traduire la recherche pour le développement durable d'un objectif de croissance et d'efficacité économique. Si on était à la télévision, je pourrais vous montrer un schéma où on voit dans l'économique non seulement le commerce équitable, la consommation responsable, la gestion des ressources, l'innovation. Vous avez le 2e qui est le plus connu, dont tout le monde parle, c'est l'environnemental, qui signifie que l'objectif de développement durable doit contribuer à préserver, améliorer et valoriser l'environnement et préserver les ressources pour le long terme. Là, naturellement, on y trouve dans cette 2e dimension du développement durable le climat, l'eau, la biodiversité, l'énergie, les déchets, les transports. Et nous voilà à notre 3e dimension du développement durable, je dirais l'oublier, et pourtant l'oublier qui va faire parler de lui, je peux vous le dire, dans les années futures, qui est le social.
Social, c'est l'humain, ce que vous dites.
Absolument, tout ce qui touche l'homme. C'est exprimer le fait que ce développement durable doit partir des besoins humains et donc répondre à un objectif d'équité sociale.
Donc c'est la solidarité.
Bien joué. Donc dans le social, on va trouver solidarité, santé, sécurité et diversité culturelle. D'où, et on en vient au concept dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est le HS2, haute sécurité santé. De la même façon, rappelez-vous, en 91-92, on a lancé le HQE, hein, c'est-à-dire qui était la haute qualité environnementale. C'est-à-dire un concept qui a permis, osons le dire, à rebooster tout ce qui était construction, bâtiment, mais aussi à sauver les architectes qui, à ce moment-là, avaient des grandes difficultés. Et donc, avec le HQE, ça a permis, si vous voulez, qui répondait à la deuxième dimension du développement durable, qui préserve le capital patrimoine, si l'on peut dire, le capital planète. Le HS2 va préserver le capital humain.
Alors, HS2, c'est haute sécurité, santé. Comme il y a deux S, on dit HS2. Voilà. J'ai bien
mieux,
compris. Hein.
Oui, c'est mieux qu'H2S.
D'accord. HS2. Donc, il s'agit de préserver le capital santé. Alors, celui-ci
le capital humain, donc la santé, naturellement.
La santé. Donc, alors maintenant, j'aimerais bien savoir, c'est un très bel objectif, mais est-ce qu'il y a des moyens pour développer cette préservation? Parce que c'est une belle idée, mais quels moyens va-t-on mettre en œuvre pour
cela? Voilà, donc vous avez retenu naturellement santé, solidarité, sécurité. Donc, la même façon que tout à l'heure, vous disiez que je présidais le Haut Conseil français de la télésanté, plus connu comme Commission Galien, ben reprenons Galien.
Ah oui, mais parlez-nous un peu de Galien.
Ah, Galien, ce grand monsieur qui a suivi Hippocrate. Ben Galien a été le premier à utiliser l'outil, la technologie, pour aider à la santé. Il a créé l'anatomie. Donc, communément, quand la commission, c'est-à-dire les experts, se sont retrouvés, et il y a maintenant pas mal de temps, mais en tout cas, on a beaucoup fait parler de nous, entre guillemets, cette dernière année, ce sont des experts de la télémédecine, légitimes, qui se sont retrouvés, c'est-à-dire des représentants multidisciplinaires, aussi bien des représentants du Conseil de l'Ordre des médecins, comme par exemple le président Jacques Lucas, qui est le vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins et qui est le patron de la télémédecine au Conseil de l'Ordre des médecins, que le Conseil de l'Ordre des pharmaciens, des infirmiers. Il y a la Fédération nationale des infirmiers qui siège dans la commission Galien. C'est quand même 70 000, je dirais, infirmiers avec le président Philippe Tisserand. Que les associations d'usagers, comme le diabète. Le diabète, c'est 30 000 personnes. Toutes ces associations, beaucoup de maladies chroniques. On a quand même, rien qu'en France, il y a 15 millions hein, de malades chroniques. Hein. Plus, vous avez les hauts fonctionnaires, que ce soit au niveau de la défense, la DGA comme Arnaud de la Lance, que ce soit au niveau du ministère de la Recherche comme le docteur Pamphil, que ce soit aussi même, naturellement, des universitaires, mais aussi des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, des syndicats comme les CIS, Gixel, qui, avec la FIEC, regroupe plus de 2000 personnes, ce qui fait, je dirais, 80 milliards de chiffre d'affaires. Donc, on n'est pas dans le petit peu, là. Donc,
une commission Galien, oui. Vraiment, qui regroupe des experts, que, effectivement, vous présidez. Mais cette commission, elle a quel objectif? Vous parlez de la télémédecine, mais ce n'est pas seulement de mettre la télévision au service de... Expliquez-nous, c'est
la télévision. Voilà, la télémédecine, ce n'est pas la médecine à la télé, ni la santé à la télé.
Je me fais un peu l'avocat du diable.
Oui, je sais bien. Non, à l'heure actuelle, le grand enjeu, c'est que l'apport de ces nouvelles technologies, si elles sont conjuguées avec une véritable volonté politique, c'est ainsi que l'on fera des véritables transformations de société. Le TGV, le spatial, ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a trouvé l'électricité. Donc, à l'heure actuelle, le choix de toute société qui prône un développement durable et qui se soucie des générations futures fait donc de la santé un bien public. Je vais y arriver, vous allez voir. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé, nous disait notre Socrate, et notre Pasteur aussi avait bien repris ça. C'est donc dans cette optique que le concept HS2, haute sécurité santé, vient renforcer le HQE, haute qualité environnementale, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui retrouve, lui, sa deuxième dimension. Et la télésanté va rapprocher les hommes. Ces technologies, l'apport de ces nouvelles technologies vont rapprocher les hommes. Souvenez-vous que d'une seule chose, à l'heure actuelle, on peut, avec n'importe où, dans n'importe quel endroit, répondre à la question angoissante « Mais qu'est-ce que j'ai ?» pour le patient. Et pour le praticien, grâce à l'apport de ces nouvelles technologies, mais qu'est-ce que je fais dans ce cas-là?
Si je vous comprends bien, ce sont donc les nouvelles technologies des télécommunications. Concrètement, ça se matérialise comment?
Eh bien, on va rapprocher les hommes grâce, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je suis de la Creuse. Okay. Dans mon canton, les trois médecins, ils vont tous partir à la retraite en même temps. C'est ce qu'on appelle du désert sanitaire, du désert médical. Eh bien, à l'heure actuelle, avec l'apport de nouvelles technologies, on a mis au point des valises de télémédecine, des kits SOS, qui sont, je dirais, dans une valise, dans une valisette, dans une mallette, et rassembler des capteurs qui permettent de prendre des paramètres médicaux vitaux. C'est quoi les paramètres médicaux vitaux? C'est toujours cœur-poumon, c'est aussi bien un oxymètre, c'est-à-dire pour l'oxygène dans le sang, que un spiromètre, que le tensiomètre, que le CG, l'électrocardiogramme, qu'un glucomètre. Vous voyez très bien, tout de suite, allez, on va prendre que le glucomètre. Quelqu'un qui est diabétique, il va pouvoir, à distance, je dirais, se contrôler en restant chez lui. Aujourd'hui, on peut avoir sa chimio chez soi. On est bien dans les hôpitaux, mais on est quand même mieux chez soi. Donc, vous voyez bien qu'à distance, à l'heure actuelle, avec l'apport des nouvelles technologies pour le diagnostic à distance, d'ailleurs, ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils viennent de reprendre dans le grand emprunt cette priorité du diagnostic à distance et l'hospitalisation à domicile, la e-santé. Ça, on dirait que, en tout cas, ce sont les parlementaires qui ont une remontée du terrain, qui ont tous peur que dans leur foyer de personnes âgées, quand il n'y aura plus de médecins, comment on fait pour suivre nos aînés s'ils ne se sentent pas bien?
Mais ça veut dire que donc, chez soi, on a cette valise, mettons, de télémédecine, mais à l'autre bout du fil, si je puis dire, ouais, il y a quelqu'un qui évidemment établit le diagnostic.
Il y a tout notre personnel de santé, nos trésors nationaux vivants. Moi, j'appelle le personnel de santé, mais aussi les aidants, ce sont nos trésors nationaux vivants. Vous voyez, la japonaise. Nous avons, par exemple, des plateformes de médecins référents, c'est-à-dire sont regroupés des médecins qui assurent des gardes 24/7, 20, je dirais 24 heures sur 7 jours, et qui vont avoir leur station de réception, ils vont se mettre devant leur écran, et quand ils vont voir arriver, par exemple, l'infirmière qui, avec son kit SOS, sa valise de télémédecine, qui aura été voir la Maria de Bobia dans la Creuse, elle va appuyer sur deux boutons. Elle ne fait pas d'acte médical. Elle assure la continuité des soins, les infirmiers. Elle appuie sur deux boutons. Et moi, ce que je faisais avec mes matrones en Afrique, hein, elles étaient analphabètes, mais elles savaient appuyer sur deux boutons. Elle appuie sur deux boutons et arrive sur l'écran du médecin, le tracé, par exemple, de l'ECG. Et c'est le médecin qui va dire, Madame l'infirmière, écoutez, on vous envoie l'ambulance parce que Maria, elle ne va pas très bien. Je vous donne un exemple, mais très opérationnel. Actuellement, en France, on n'est plus dans l'expérimentation. On est près de la banalisation. Vous avez Macha, une infirmière à l'île d'Édic, okay, qui est dans une île de 56, hein, du Morbihan. Elle est en même temps chef de pompier dans sa petite île. Elle, avant, elle me disait, Madame la Joannine, moi, principe de précaution, c'est vrai, des fois, cette fois sur 10, j'appelais l'hélicoptère pour rien. Elle dit maintenant, c'est mon colonel, qui est médecin, qui est donc à OSDIS 56, c'est-à-dire chez les pompiers, la sécurité civile des pompiers à Morbihan, qui voit arriver le tracé, l'électrocardiogramme,
sur son écran.
Et qui lui dit, Macha, il va pas bien ton gus, là, il va pas bien ton malade, là, hein. On t'envoie l'hélicoptère. Donc, encore là, développement durable. Non seulement, si on fait le bilan carbone, vous avez tout de suite compris toutes les
économies que l'on fait,
mais surtout, on économise, je voudrais dire, certes, de l'argent, et on revient à notre développement durable, on économise du bien-être, on économise du rassurer, on économise quand même de l'angoisse. C'est tout cet aspect, non seulement économique, mais exonomique, que la télémédecine, la télésanté, parce que la télésanté, c'est aussi l'assistance à la personne, que toutes ces nouvelles technologies en apport à la santé vont dans ce développement durable.
Donc, la télésanté et la télémédecine, pour vous, Guylaine Lajoinine, c'est l'une des solutions pour développer justement cette troisième dimension oubliée du développement durable, qui pour l'instant n'avait pas encore mobilisé, en tout cas, l'attention médiatique.
Absolument. Là, on a démontré que non seulement ça répondait à des besoins humain, mais ça rejoignait les deux autres dimensions du développement durable, qui sont donc l'économique et l'environnemental. Donc là, on est en train de penser en même temps aux générations futures.
A-t-on bon espoir que cette télémédecine se développe dans les quelques années qui viennent, mais prochainement, pas dans 10 ans?
Moi, je dirais que la télémédecine, la télésanté, ce n'est peut-être pas la panacée, c'est simplement devenu indispensable. Quand vous voyez, par exemple, que dans les TOM DOM, moins 38% de médecins actifs en moins d'un an, okay ? Après la perte du pouvoir d'achat, la perte de l'emploi, plus pouvoir se soigner, ça serait du clash social. Il y a donc à organiser, à mailler les territoires, hein, et on peut le faire, et en France, on a, chose extraordinaire, on a tout la force industrielle qui peut répondre à, je dirais, cet enjeu que la France devienne un leader mondial de la télésanté, un grand champion, comme on a eu un grand champion avec les télécoms, avec par exemple France Télécom, comme on a des grands champions dans l'énergie avec Areva. On a à l'heure actuelle toute cette possibilité technique pour faire d'un grand champion. On est les leaders mondiaux à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver maintenant? Tout à l'heure, je disais, il faut de la volonté politique.
Elle existe? Vous n'allez pas me dire qu'elle n'existe pas, sinon vous allez vous faire des ennemis.
Je n'ai pas vérifié, mais il me semble bien, mes vieilles études de grec, crise, ça ne voulait pas dire décider. Et puis en chinois, crise, c'est deux idéogrammes. Il y en a un qui veut dire challenge et l'autre qui veut dire opportunité. OK. Alors, à l'heure actuelle, il suffirait qu'on décide de monter, et c'est ce que la commission Galien, on a demandé,
oui,
de monter un plan quinquennal, un plan Marshall, pour mailler notre continent. On sait exactement où sont les zones où il y a de la désertification médicale. On les connaît par cœur, hein. C'est à peu près, il y a 88 cantons, j'oserais dire, qui sont véritablement à la maison brûle, hein. Il y a ce qui
sans
touche à peu près
les dom-tom dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire les territoires
Ça fait à peu près 3 millions de personnes qui sont touchées là tout de suite. Donc, c'est très facile. On a déjà la cartographie, on la connaît, les URML, tout le monde a fait la cartographie. Il y a différentes cartes qu'il faut, je dirais, superposer, parce que la carte des plus de 60 ans n'est pas la même que si vous faites par rapport à des paramètres médecins par rapport à la population. Moi, j'aime mieux regarder une carte plus de 60 ans parce que c'est là où il y a le plus besoin de médecins. Ceux qui ont le plus besoin de médecins, ce sont les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Donc, il faut regarder plutôt sur ce genre de population par rapport à des médecins généralistes. D'ailleurs, il y a eu une très bonne carte qui est sortie, je crois que c'est Pierre de Foucas qui a sorti cette carte, où on voit tout à fait cette carte. Donc, cartographie, on sait...
On est au point.
On est au point, hein, c'est-à-dire c'est comme un plan de bataille. On sait où il faut attaquer en premier. On a, je dirais, les soldats pour, on a les acteurs pour, notre médecine, les French doctors. Allez, c'est quand même... arrêtons de nous flageller, c'est la meilleure du monde. Enfin, là, je n'ai pas peur de le dire. Hein. Donc, on a tout ce qui est personnel de santé, savoir-faire, formation. Parce que c'est bien l'action, mais il faut aussi qu'il y ait la formation, qui est vraiment encore la meilleure du monde. Et de l'autre côté, chose fantastique, on est les seuls d'ailleurs à posséder, je dirais, cette approche sociale, intellectuelle et technique, on a toute l'innovation technologique qui répond à cette approche. C'est-à-dire qu'on peut, en 5 ans, couvrir la France de façon à ce que n'importe où, dans n'importe quel endroit, on puisse répondre à la question angoissante, mais qu'est-ce que j'ai ?
Alors, les politiques sont-ils sensibles à ça et quel serait le coût aussi ? Est-ce que, par exemple, le coût de cette installation dont vous parlez est un frein ou est-ce que, justement, ils ne sont pas encore sensibles pour d'autres raisons ?
Si vous voulez, c'est comme toute innovation. Il y a le temps de l'éducation. Il y a le temps de ce qu'on fait là. Il y a le temps, il faut expliquer. C'est nouveau. Vous savez, j'oserais dire, personne n'aime le changement. Hein. Il n'y a que les bébés mouillés hein, qui aiment le changement. Donc, quand il y a transformation, quand il y a enjeu, ça fait toujours peur, hein, quelque part. Donc, il y a cette phase d'éducation, mais il faut la passer très vite, là, maintenant, parce que maintenant, ça devient dramatique.
Il faut communiquer ce que vous êtes beaucoup, en train de faire voilà, et ce que les membres de la commission...
D'où la commission Galien, pour communiquer, pour montrer. Et la télémédecine, la télésanté, les effets font que ça rapporte. Je vous prends simplement des chiffres très précis. L'IRDES, hein, qui est un organisme qui est, je dirais, soutenu par le ministère de la Santé, qui est l'Institut de recherche et documentation des économies de santé, je crois que ça veut dire IRDES, dans un bulletin de mémoire, hein, qui est le bulletin, je crois que c'est le 117 ou 119, en tout cas de février 2007, qui vous dit que si on arrivait à faire en sorte qu'il y ait de l'hospitalisation à domicile, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser le diagnostic à distance, les technologies qui permettent de faire du diagnostic à distance. Diagnostic, et puis demain, on peut faire de la pompe à morphine à distance, on peut faire donc la chimio à distance, donc on peut faire soins. Tout ça, hein, ça existe. Hein. Donc, on donne comme chiffre, simplement 100 par département, ce qui ferait des 1000 pour la France, on ferait des économies de 350 millions d'euros. Okay, ce qui veut dire que normalement, là, il faudrait vraiment là, tout de suite à peu près 50 000, ce qui nous ferait déjà 1,5 milliard. Donc, ce sont des économies, mais tous les effets collatéraux sont très importants. Écoutez, reprenons la Creuse. La petite dame, Maria, là, qui tout à l'heure avait son problème cardiaque, si elle n'avait pas son kit SOS avec son infirmière qui la suive chez elle, elle serait à l'hôpital. Sa fille, elle veut venir la voir tous les jours. Moi, de Chambon à Montluçon, il y a 30 km, ça fait 2 pleins d'essence dans la semaine, okay, pour aller la voir. Mais le pire, c'est que pendant ce temps-là, elle n'est pas au boulot. Elle n'est plus à son travail. Donc, elle doit prendre des RTT, mais s'il ne reste plus de RTT. Donc, si vous voulez, c'est difficile à calculer. Oui. Mais tout à l'heure, on parlait de développement durable et le bien-être. Vous voyez bien que l'apport des nouvelles technologies permet aussi cette amélioration dans le mieux-être, dans le rassurer. Et quand même, oh, je vais vous citer autre chose. J'étais à côté de Simone Veil. Et Simone Veil me disait, oh, Guylaine, Madame Ajouanine, on se rappelle de vos expériences en Afrique quand vous avez fait les premières expériences de télémédecine satellitaire. Elle dit, c'était osé. Oh, j'ai dit, oui, personne n'y croyait. J'ai failli me retrouver sous les ponts. J'ai dit, justement, heureusement qui a eu l'Académie et qui avait Pierre Messmer à ce moment-là, qui connaissait bien l'Afrique et qui m'a dit dans l'oreille « Mais on a quelques prix là, répondez donc à ces prix-là. » Et c'est avec, j'ose le dire, avec les sous de ces prix-là que j'ai réussi à finaliser mes premières expériences et démontrer que la télémédecine satellitaire, ça pouvait marcher. Okay, c'est-à-dire qu'on pouvait faire passer des diagnostics à distance grâce aux antennes qu'on avait sur les satellites. Donc, ça marche. Et elle dit, moi, j'avais surtout pensé à ces expériences de télémédecine pour que les gens puissent rester chez eux plutôt que de les forcer à les emmener à l'hôpital. Elle dit oui, en hospitalisation forcée. Elle dit, j'avais demandé qu'on me fasse des statistiques, qu'on me dise combien à peu près était le pourcentage de journées hospitalières qui étaient en hospitalisation forcée. Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, hospitalisation forcée. Donc, elle m'explique, Simone Veil. Ah, je dis oui. Donc, ma grand-mère de la Creuse, elle allait vraiment pas très bien. Comme vous savez comment ça se passe, on appelle les enfants. Donc, on arrive tous. Moi, j'étais à l'étranger, on vient me chercher. Enfin, c'était compliqué. Et là, bon, on savait qu'elle en avait pour quelques jours, pour ne pas dire quelques heures. Et ma mère dit, il faudrait quand même qu'on fasse venir notre médecin. Mais notre médecin, elle était partie à la pêche. Et c'était son remplaçant, qui était un petit jeune remplaçant, un médecin belge, qui est arrivé, qui lui commençait à dire... Ah non, moi je ne prends pas de responsabilité. Dans ces cas-là, il faut envoyer, on m'a bien dit, il faut envoyer à l'hôpital. On lui a dit, écoutez, mais non, laissez-nous là. On sait bien qu'elle n'en a plus pour bien longtemps. Mais regardez, elle voit ses chênes, ses beaux châtaigniers par la fenêtre. Il y a l'odeur du café qui remonte. Il y a ses copains là qui vont lui amener des œufs frais, etc. Laissez-nous là. Elle est là au milieu de ses bibelots, de ses petits-enfants. Laissez-nous là. Ah ben non. Ils l'ont descendu sur un brancard dans le grand escalier, le gyrophare au milieu des cochons et des poulets. On est arrivé à la clinique de l'hôpital. Ils lui ont demandé sa carte. Ma grand-mère, on ne lui avait jamais demandé une carte de sa vie. Elle était affolée. Je lui ai dit, t'inquiète pas, tout ça va bien se passer. Et là, on l'a mis partout,
donc,
des fils, partout.
Une hospitalisation forcée en fin de vie, alors qu'on savait que ça ne servait
absolument
plus.
Et là,
mais la télémédecine ne peut pas répondre uniquement à ce cas de figure.
Absolument, ça, ce
mais
n'est
donc,
qu'un
ce
cas parmi des milliers.
C'est que ça fait faire des économies.
Alors, absolument.
Parce
et donc, on a fait un petit calcul. On a fait un petit calcul avec Simone Veil. Elle me dit, on m'a donné comme chiffre entre 5 et 20% des journées d'hospitalisation. Ben, j'ai dit, au moins, ça, c'était précis. Elle me dit, oui, elle dit, j'ai eu que ça comme chiffre. J'ai dit, bon, on a à peu près 28 millions de journées hospitalières en moyenne par an.
Si donc, on en économise même que 20% ou 5%, même ça, ça vaut la peine d'économiser.
Ce sont des milliards d'économies.
Alors peut-être c'est le ministre de l'économie et des économies sur la santé qui va finir par vous dire qu'il faudrait installer télémédecine. C'est peut-être du côté de l'argent que viendra la solution.
Ah, ça c'est du côté d'une volonté politique et aussi d'une volonté de regarder ça d'une façon interministériel, parce que c'est aussi bien, comme on le disait tout à l'heure en riant, c'est pas que la santé à la télé et la télé à la santé, hein. C'est aussi bien de l'aménagement du territoire, c'est aussi bien de l'économie, c'est aussi bien de l'industrie, c'est aussi bien de la défense, c'est aussi bien du numérique. Il y a, donc il faudrait, pour que ça marche, c'est pas que le puits soit trop profond, c'est que la corde est trop courte. Il faudrait qu'il y ait une décision de monter, par exemple, un genre de délégation interministérielle. Ils ont monté en Afrique des agences sur la télésanté. Vous voyez bien qu'ils vont être plus en avance que nous. Hein. Je l'avais déjà dit, ça. Donc, non, mais c'est vrai. Hein. Ils font des courts-circuits. 30 millions de téléphones filaires en 30 ans en Afrique. 30 millions de téléphones mobiles en 3 ans. Hein, les raccourcis connaissent.
Bien sûr, oui. Non. Ils ne perdent pas de temps parce que justement, ils ne sont pas dans ces changements qui forment des freins.
Exactement. Toute la lourdeur d'administration sur laquelle il faut passer dans nos vieux pays, entre guillemets. Donc, en résumé, vous voyez bien que c'est décidé. Donc, comme je le dis, la montagne vient de bouger. Depuis le 21 juillet, la loi HPST, ce qui veut dire hôpitaux, patients, santé, territoire, on a vraiment fait sortir un article, qui est l'article 78 sur la télémédecine, qui va permettre, j'oserais dire, de donner le cadre au bac à sable. C'est-à-dire, maintenant, on va pouvoir savoir comment les médecins vont être rémunérés quand ils se mettent devant leur écran. Il y a des bases juridiques.
Une loi.
C'est ça, absolument. Donc là, c'est énorme. Maintenant, je voudrais dire, si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a cet article, et d'ailleurs le décret d'application va incessamment sortir, qui va permettre vraiment de faire un bond pour l'avancée de la télémédecine, et tout de suite, dans la foulée, j'oserais dire, de la télésanté.
Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle que Guylaine Lajoinine, vous êtes venue nous annoncer, en parlant de ce troisième pilier du développement durable. Encore un mot, vous aviez quelque chose
à
ajouter ?
Oui, j'oserais dire que finalement, on est à la veille d'une véritable révolution du soigné. Donc, deux grands enjeux où la France peut véritablement venir et devenir un champion, une France leader mondial en télésanté. Et comme vous le savez, le home care, qui est l'assistance à la personne, est le plus grand marché prometteur mondial point de vue économique. Donc la télémédecine, télésanté répond parfaitement à ce marché et va permettre de faire émerger une filière industrielle qui pourrait être puissante pour la France, donc avec des emplois à la clé absolument fantastiques. Donc on est véritablement dans une révolution du soigné. Il ne reste plus qu'à agir, mais agir, c'est à la portée de tous, comme disait Sœur Emmanuelle.
Merci Guylaine Lajoinine de nous avoir éclairés et de nous avoir aussi apporté un espoir, parce que finalement, on a peut-être oublié cette troisième dimension, mais je vois que maintenant elle va repartir très fort et qu'elle est en tout cas prometteuse d'un avenir bien pour la France, d'un avenir positif. Merci beaucoup et puis bon courage à la Commission Galien. Là, je crois que la montagne, vous l'avez dit, elle a été remuée, maintenant elle bouge et elle va
elle
enfin accoucher de quelque chose.
J'espère que ce ne sera pas une souris.
Merci Guylaine
Lajoinine.
Au revoir.